connaissances, la sémiotique dans la cuisine du sens. Aujourd'hui, état des lieux avec Anne Hainaut. Dans l'esprit de Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique, la sémiologie, science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale, devait consister dans l'inventaire, la typologie et le fonctionnement des signes dans un univers socioculturel donné. Cette science générale des signes devait inclure la linguistique, mais c'est finalement l'inverse qui s'est produit, la vie des signes, même non verbaux, obéissant aux lois générales de fonctionnement des langues naturelles. Dans les années 60, cette sémiologie naissante devient la sémiotique et se concentre sur les subtiles constructions du sens, sous les signes ou entre les signes, abandonnant le projet de typologie générale qui constituait la sémiologie. Déchiffrer les signes du monde, cela veut toujours dire lutter avec une certaine innocence des objets, disait Roland Barthes. Mais c'est surtout sous l'impulsion du linguiste Algirdas Julien Grémas, fondateur de l'École de Paris, que cette lutte s'organise. Anne Hainaut.
Au fond, Grémas avait l'habitude de dire que la sémiotique a commencé à exister quand elle s'est libérée de la problématique du signe et quand on est sorti de cette manière-là de planter le décor. Et si vous prenez le dictionnaire qui fait référence pour nous, le dictionnaire raisonné de la théorie du langage que Grémas avait signé avec le professeur Joseph Courtès, vous trouverez que l'article sémiotique est énorme, le plus gros, c'est un livre à lui tout seul, et qu'il est très feuilleté en ce qui concerne les mouvements de définition. Mais ce que je pourrais dire, moi, c'est que on pourrait opposer une sémiotique et la sémiotique. Une sémiotique, c'est un dispositif qui organise une matière donnée dans un espace-temps donné. Par exemple, lorsque le petit poucet sème ses cailloux blancs dans la forêt, il organise une sémiotique qui comprend deux plans distincts et indissociables. La matière exprimante, ce sont les cailloux. Le sens exprimé, c'est « voici le chemin par lequel nous sommes passés ». Tous les langages sont des sémiotiques, mais il y a des sémiotiques qui ne sont pas des langages.
Et alors, Anne Hainaut, en reconstituant le parcours du sens dans une construction verbale ou non verbale, la sémiotique se rend aussi apte justement à, d'une certaine manière, faire naître le sens d'éléments, d'images où il n'apparaît pas de manière évidente.
Faire naître, en tout cas lire. Nous aimons beaucoup dire que nous lisons le sens, parce que le sens, il est certainement là. Nous ne le créons pas. Il est là, mais nous pouvons le faire apparaître, nous pouvons le lire, nous pouvons le démontrer quelquefois, dans le meilleur des cas. Nous pouvons le calculer. Le sens, c'est encore une expression de Grémas. Grémas prétendait que nous faisions du calcul de signification, c'est-à-dire que nous arrivions à de véritables démonstrations du contenu, de l'expression ou de l'exprimer. Parce qu'il y a les deux plans, et les deux plans renvoient toujours l'un à l'autre. Enfin, les descriptions sont aussi précises et aussi fines de l'un des plans que de l'autre.
Vous l'avez déjà dit, Anne Hainaut, mais je crois qu'il faut y insister. Pour le sémioticien, il n'y a pas solution de continuité entre le signe et le signifié, le signifiant et le signifié. Il y a beaucoup plus, si vous voulez, que dans d'autres types d'approches et d'analyses textuelles, une attention à cette fusion qui est la réalité, dans le fond, puisque lorsqu'un mot nous arrive ou une signification, elle est toujours, en quelque sorte, portée par quelque chose.
Exactement.
Qui est de l'ordre du signifiant.
Oui, oui. Pour nous, c'est vrai qu'il y a une sorte d'inhérence indéchirable dans le signe et que notre travail est d'essayer de montrer comment se font les articulations des deux plans, comment ce signe-là a innové la mise en relation du plan de l'expression, du plan du contenu. Chaque fois, si vous voulez, la description arrive à cela, quand elle est bonne.
Alors, la description, c'est le premier stade du travail du sémioticien.
Ah oui.
C'est un stade assez fastidieux. Il s'agit en somme de déplier les différents aspects des signifiants et du sens.
C'est exact. Et nous avons une sorte de stock d'exemples, de descriptions qui nous ont paru spécialement convaincantes et abouties. et le volume un peu gros de questions de sémiotique réunit certaines de ces descriptions qui sont pour nous incontournables, qui sont en même temps des sortes de manuels de sémiotique pratique. Nous apprenons à faire de la sémiotique, nous enseignons à faire de la sémiotique à partir de ces analyses-là et de ces cheminements de description, de ces cheminements déductifs qui, de proche en proche, arrive à des structures profondes du document analysé.
Grémas représente un des courants de la sémiotique, celui qu'on appelle le courant continental ou européen. Il y a, outre-Atlantique, chez les anglo-saxons, une autre figure qui anime un courant, disons, peut-être plus formaliste, plus logicien, moins, entre guillemets, littéraire que le courant continental et saussurien.
Je ne sais pas si je vais accepter ces qualificatifs. Vous savez que les qualificatifs sont tellement dangereux. Le courant américain, de sémiotique américaine, qui est issu des travaux de Peirce, qui était lui-même un contemporain de Saussure, ils ne se sont pas connus, ils étaient complètement en parallèle. Il y a eu deux sources pour la sémiotique, n'est-ce pas, qui s'ignoraient l'une l'autre. Peirce, certes, est un esprit scientifique, mais c'était le cas de Saussure également. Peirce est logicien. Peirce est avant tout un philosophe. Et je dirais que la postérité de Peirce n'a pas fait le même travail que la postérité de Saussure. La postérité de Peirce s'en est tenue à une attitude philosophique, alors que la postérité de Saussure a pris une attitude rigoureusement théorique, au sens où on parlerait de la théorie de la lumière pour les physiciens, de la théorie de l'électricité, du rationalisme électrique pour Bachelard, c'est-à-dire des attitudes très différentes. Chez les descendants, entre guillemets, de Peirce, c'est de la spéculation très créative et d'ailleurs très inspirante pour nous. Chez nous, c'est plutôt davantage du calcul, des analyses très pratiques et très rigoureuses, de l'expertise d'une certaine manière. On demande de l'expertise sémiotique à la sémiotique européenne, on n'aurait pas l'idée d'en demander à la sémiotique américaine.
Algirdas Julien Grémas.
L'écrivain italien Italo Calvino a très bien dit dans une des interviews que l'homme, avant de réfléchir, a commencé à se raconter des histoires. C'est probablement une activité humaine première. Hein? Ce qui correspond à ce qu'on appelle dans d'autres disciplines l'imaginaire et les formes donc narratives de l'imaginaire. De ce point de vue, on s'aperçoit que au-dessus des langues naturelles, il existe les formes métalinguistiques, puisqu'elles sont communes à l'humanité, indépendamment des langues naturelles qui sont utilisées, et qui produit des discours dont la typologie peut être établie, mais dont les genres, si je puis dire, se retrouvent un peu partout, d'Océanie jusqu'en Afrique et en Europe. Alors, c'est probablement une des formes fondamentales de l'activité du sens. Et il est important d'étudier, non seulement parce que tout ce que nous appelons dans notre cadre européen la littérature, mais aussi tout ce que nous appelons histoire, relève de la manifestation de ces structures narratives.
Votre terrain à vous, Anne Hainaut, c'est donc le vaste domaine des passions, et en particulier des passions politiques d'ailleurs. Vous êtes revenu donc dans les derniers moments, les dernières années du règne de Louis XIII pour voir comment la passion s'exprimait justement dans, disons, les rhétoriques officielles.
Ah, ça c'est une chose un peu plus compliquée encore là, parce que ce que j'ai fait sur le règne de Louis XIII, c'est une exploration un peu démente, à partir de papiers on pourrait dire de papiers de pouvoir si vous voulez, mais c'était des papiers, des archives complètement inexploitées par l'histoire. Les historiens ne savaient pas quoi en faire. D'ailleurs, j'ai vu écrit en toutes lettres, de ces papiers-là, on ne sait pas quoi faire. Ce sont des papiers qui correspondent à la période du de 1622, 1623, ce n'est pas tout à fait la fin du règne de Louis XIII, mais au contraire, le début de son règne personnel, je dirais. Et là, ce sont des papiers que je n'ai pas exploités directement pour découvrir les labyrinthes du politique. Non, le projet était bien différent. Le projet était d'essayer de montrer que des textes peuvent être imprégnés d'un mouvement passionnel qui n'aurait pas été signifié volontairement. C'était ça le projet, l'énigme, c'était ça. Et pour moi, c'était une gageure véritablement, parce que j'avais entendu trop de raisonnements philosophiques qui montraient que cela est impossible. Ou bien c'est signifié, ou bien ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'ineffable. Enfin, ce sont tous les thèmes d'une certaine philosophie. Et donc, j'étais gênée par cette sorte d'interdit. L'aventure du pouvoir comme passion, puisque vous faisiez allusion à ce livre-là, a été de montrer qu'était faisable quelque chose qu'on avait toujours cru infaisable jusqu'à maintenant. Et c'était donc de montrer que la surface d'un texte qui ne dit presque rien en apparence peut être en réalité craquelée, travaillée en dessous par des passions, et qu'il est possible de le démontrer. Bon, c'était ça l'entreprise. Alors le livre Le pouvoir comme passion, c'est un livre un peu rigolo finalement, parce que j'ai puisé dans les sources d'Alexandre Dumas. C'est tout à fait ce monde-là, ce monde bouillonnant de la période Louis XIII, juste avant que Richelieu ne calme tout le monde de la manière que nous connaissons. Et j'ai eu une masse de documents écrits que je n'ai jamais trouvé pour une autre période de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi.
Et où avez-vous vu donc les indices de la passion ?
Eh bien, ça a été un montage à la façon de la pierre de Rosette, c'est-à-dire que le texte que j'étudiais ne disait rien, strictement rien. C'était un texte vide, blanc, bien, mais il se trouve que l'auteur, donc, qui n'est autre que Robert Arnaud d'Andilly, le frère aîné du grand Arnaud, le port-royaliste, bien, Robert Arnaud d'Andilly a vécu très longtemps pour son temps. Et 50 ans après, les notes furtives, hâtives qu'il prenait dans le sillage du roi, lors de la campagne de pacification du Midi en 1622, eh bien, il a utilisé ces notes pour écrire ses mémoires tout au long. Et ça a été le début du travail de superposition entre les deux moments, pour voir un peu ce qu'il vivait vraiment quand il écrivait telle chose. Et puis, le travail en question a été beaucoup plus large, parce que j'ai utilisé tous les documents disponibles, tous des témoins oculaires de ceux qui écrivaient en même temps que lui, au moment même où les choses se passaient. Et avec ce travail-là, qui a été assez large en termes de mobilisation d'archives, on a pu voir des choses qui échappaient à la première lecture, des craquelures, je répète, à la surface du texte, des choses bizarres qui, dans ce peu de mots qu'il y avait, apparaissaient encore comme très bizarres, et qui étaient des moments où, en quelque sorte, il se laissait aller sans le vouloir, à laisser percer soit sa passion contrariée pour les honneurs, soit son avidité à obtenir telle fonction de secrétaire d'État, ou au contraire sa jubilation quand il pensait être tout près du but. Tout cela finit par se lire, mais bon, par un procédé un peu lent, voilà. Mais par exemple, il a été, au moment où il croyait toucher au but, où il croyait devenir secrétaire d'État, donc la chose qu'il avait au monde le plus désiré toute sa vie, il fonctionne comme un véritable chef de gouvernement, et il conclut, ou il négocie plus exactement, il négocie un traité entre les belligérants, puisqu'à ce moment-là, Louis XIII est en train de vouloir vaincre, écraser les protestants du Midi de la France. Donc il négocie les termes exacts du traité. Si vous regardez dans les livres d'histoire, ce traité n'a jamais existé, il n'a pas eu lieu. C'est rien. C'est un non-événement. Mais dans la vie de Arnaud d'Andy, c'en est un. Et les indications de temps et de lieu sont absolument solennelles, précises comme le temps de l'histoire, alors qu'il n'y a rien. Et inversement, lorsque le vrai traité arrive, mais que là, lui est déjà en disgrâce et n'a plus part à l'affaire, le vrai traité, au contraire, est noté comme... comme rien du tout. Il n'y a plus la solennité, il n'y a plus les marqueurs qui encadraient l'autre. Mais dans un, c'était moi j'y étais, moi j'ai fait l'histoire, et dans l'autre, c'était ils ont fait l'histoire. Vous voyez. Mais ça se lit à la surface du texte très très bien, je le démontre.
Depuis quelque temps, il est devenu important d'étudier, non pas comme le faisaient les linguistes il y a 10 ans, comme le fait encore Chomsky aux États-Unis, les unités linguistiques ayant la dimension de la phrase, de l'énoncé, mais d'étudier les discours, ou les textes, c'est-à-dire, on s'est aperçu qu'à partir d'une syntaxe donnée, on pouvait produire ou générer, comme on dit, un nombre infini d'énoncés. Mais évidemment, à l'infinité d'énoncés correspondait l'infinité de sens situationnels. Tandis que la visée humaine, hein, lorsqu'elle cherche à produire du sens, se construit sous forme de discours, hein, où les énoncés s'enchaînent et cherchent à se maintenir à un certain niveau topique, que j'appelle isotopie, et pour produire un sens global. D'où les recherches auxquelles j'ai pas mal contribué, les recherches sur ce qu'on appelle les structures narratives, c'est-à-dire sur les formes d'organisation du discours.
Vous disiez à Neno que vous aviez, dans le fond, tenté de relever un défi, celui de d'aller chercher, dans le fond, dans le langage, des traces organiques, en quelque sorte, des passions. Mais au-delà de ça, justement, votre projet était de d'aboutir à une véritable grammaire de l'organique dans le langage.
Oui, et dans le langage écrit, la gageure était là, parce qu'il y a longtemps qu'on sait bien que le langage oral est tout secoué par la présence corporelle. On sait très bien cela, c'est ce qu'on appelle le suprasegmental. Mais on croyait que ça n'était pas possible à l'écrit. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à montrer qu'en réalité, les cohérences, surtout les valorisations de l'écrit sont complètement rythmées par des investissements personnels qui peuvent ne pas être signifiés par des mots, des structures linguistiques prévues à cet effet, mais qui sont là très fortes, très tendues, nous employons le mot de tensive, qui sont là et qui en réalité font le format de l'expression.
Et le ton aussi,
le
peut-être.
Ton, oui, bien sûr, mais profondément, qui font la valeur persuasive même de la chose, qui font prendre le sens. Il y a des effets comme cela qui n'ont jamais été décrits parce que ceci échappe au plan proprement linguistique. C'est vraiment du plan sémiotique. Et au fond, depuis une quinzaine d'années, nous croisons devant ces difficultés-là. Nous n'avons pas réussi encore à isoler la nature, ce que sont ces structures, on va employer ce mot-là, de quelle sorte sont ces structures qui sous-tendent le langage lorsque la personne est engagée, passionnée, dégoûtée, etc. Comment se fait-il qu'en réalité, on le perçoive presque toujours
à travers les mots, je dirais, et en transparence.
Au-delà des mots, j'emploie le mot de rythme parce que je ne sais pas pour l'instant en dire beaucoup plus. Mais les mots prennent d'une certaine façon les enchaînements sémantiques qui font que nous-mêmes, à la lecture de ces textes-là, nous sommes passionnés ou pas. Il y a des textes chauds, il y a des textes froids, mais ça, indépendamment du soin qu'aura mis le scripteur, l'écrivain, pour captiver son public, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose.
Et d'une certaine manière, vous arrivez à distinguer de cette façon la place, non pas du spectateur, comme on l'a dit pour la peinture, mais la place du lecteur.
La place du lecteur, oui. La place du lecteur, pour le moment, là, ce dont je parlais, c'était surtout quand même la place du corps écrivant. C'était plutôt quand même du côté de l'énonciateur que j'étais placée, je dois dire. Parce que, par exemple, le journal d'Arnaud d'Andilly n'était certainement pas destiné à avoir un autre lecteur que lui-même. Et en revanche, il en parle d'une façon qui est frappante. En plein règne de Louis XIV, cette fois, puisqu'il était très vieux, il explique qu'il est capable de faire ses mémoires, d'écrire correctement ses mémoires, parce qu'il a par devers lui un journal fort bien fait, je cite de mémoire, dans lequel tout est dit. Et quand on se reporte à ce journal, on se rend compte qu'il n'y a rien, ou presque rien. Ce qui veut dire que ce journal portait pour lui un parfum de ce que nous appelons un parfum de proprioceptivité, c'est-à-dire qu'il y avait là, enfermé, et ça fait partie de l'énigme pour moi, il y avait là des masses de sens captifs dont j'ai pu faire apparaître certains, naturellement. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Il est clair que s'il n'avait pas eu ce journal dans lequel nous ne lisions rien, il n'aurait pas été capable d'écrire ses mémoires. De même que certains d'entre nous qui sommes un peu fétichistes des notes griffonnées sur un ticket de métro, une enveloppe, etc., nous ne serions pas capables de rédiger un grand discours si telle chose n'avait pas été prise sur le vif à un moment X. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là.
La sémiotique dans la cuisine du sens. Aujourd'hui, état des lieux avec Anne Hainaut, professeure à l'UFM de Paris et à l'Université de Paris 4 et co-auteure de Questions de sémiotique aux presses universitaires de France.